En aparté, l'émission littéraire sur RMJ avec Claude Perronnet.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de notre magazine, le livre du mois, l'écrivain du mois. Chaque mois, je reçois un écrivain de notre région et après un résumé lecture du roman, de l'essai, du récit, du recueil de poésie, nous dialoguons avec les auteurs qui acceptent de se prêter, voire de se livrer, au jeu de l'entretien. Aujourd'hui, j'ai choisi un premier roman, Méandre, au pluriel, et une auteure, originaire de Bellac, Aurélie Tartaud. Des bruits de pas résonnent dans le couloir. La porte s'ouvre. Je perçois du mouvement, mais c'est atténué. Je ne sais pas si je suis éveillé ou si je suis en train de rêver. Quand elle s'assoit sur le bord du lit, je reconnais maman et je comprends que je suis reparti pour une triste et bien réelle journée. Elle repousse affectueusement une mèche de cheveux de mon visage. Émilie, ma chérie, il faut te lever. Tes cours commencent dans une heure. Quoi ? Je ne comprends pas. C'est peut-être un cauchemar finalement. Je n'ai pas mis les pieds en classe depuis 2 ans. Ma mère insiste. Allez, debout. Attention aux yeux. J'ouvre les volets. Joignant le geste à la parole, elle se lève et fait entrer la lumière du petit matin dans la pièce. Je jette un coup d'œil au réveil de ma chambre, 7h30. Je ne me rappelle pas la dernière fois que j'ai dû me lever à une heure aussi matinale. Je ne suis pas une grosse dormeuse, on peut même dire que je ne dors plus vraiment, mais je ne vois plus l'intérêt de me lever chaque jour. La plupart du temps, je traîne au lit jusqu'à 10 ou 11 heures. D'ailleurs, ce réveil a plutôt une fonction ornementale. Connaître l'heure ne m'est d'aucune utilité. Je ne la trouve pas jolie non plus. Et ces chiffres lumineux sont justement trop lumineux. C'était le sien. Lorsque la narratrice écrit « c'était le sien », précisons, c'était celui de son mari qui vient de mourir dans l'usine, dans l'atelier où il travaillait. Et depuis, l'héroïne, Émilie, qui semble en pleine déprime, est revenue vivre chez ses parents. Et écoutez bien ce que lui dit alors sa mère. « Tu ne protestes pas ? Super. Allez, viens. Je t'ai préparé ton petit déjeuner. » Je t'ai inscrite à une formation en management et le premier jour, c'est ce matin. Mais de quoi tu parles ? Dis-je en détachant toutes les syllabes. Je n'ai aucune envie d'aller dans je ne sais quel cours. Je te rappelle que j'ai abandonné mes études. Et un peu plus tard, je te remercie maman de toute cette attention. Je sortirai quand j'en aurai envie. Et encore plus tard, alors que sa mère insiste, « Mais putain, maman, je ne suis pas une ado qui vient de se faire larguer. Je ne m'en remettrai jamais. Plus vite t'intégreras, mieux ce sera. Et si tu ne me supportes plus, jette-moi dehors. Et je t'ai jamais demandé de me subir. C'est toi qui as voulu que je vienne. » Et la mère de répondre, « Ah non, je ne vais pas te mettre dehors. Mais... les choses vont changer et tu vas te bouger. » L'héroïne nous expliquera, j'ai passé ces 2 dernières années dans ce lit à me morfondre. Le chagrin et la douleur ont été mes seuls compagnons et je n'ai fait aucun effort pour m'en débarrasser. Je ne sors plus. Je ne vois personne mis à part Paul et Claire qui me rendent visite. J'ai arrêté de penser à quiconque il y a bien longtemps. Il n'y a que Damien, c'est son mari décédé. Il occupe toutes mes pensées, souvenirs et regrets remplissent le court laps de temps entre 2 crises de sanglots. J'alterne entre souffrance physique et psychologique. J'ai l'impression d'être une terre aride et déchiquetée, surface craquelée, victime de violentes tortures à chaque soupir ou larme. Profondément meurtri, j'ai rarement le privilège d'une douleur sourde. Je me drogue, donc, à dose d'impossibles futurs à deux, mais comme avec toutes ces substances, la descente est terrible et c'est pire le jour suivant. Ce court passage pour vous montrer la gravité, la profondeur de la crise de dépression d'Émilie. Cette déprime nous est décrite, nous est racontée avec une précision glaçante que de douleur, de pleurs, d'enfermement chez Émilie, que d'efforts aussi de la part de ses parents et de ses amis pour rameler Émilie dans la communauté humaine, que de tentatives tenaces, que d'échecs aussi. Parmi ses amis, Émilie nous cite Paul et Claire. Claire est sa sœur qui tient un magasin de mode dans la grande ville voisine, je crois que c'est Limoges. Paul est un ami d'enfance, amoureux depuis toujours d'Émilie et qui espère sans doute maintenant qu'elle est veuve. Je vais revenir un peu sur ces deux personnages et surtout sur les cours de management qu'Émilie va finalement accepter de suivre. Mais sachez que la guérison sera longue. Un petit espoir pourtant apparaît à la page 104. Au petit déjeuner, la musique me chatouille les oreilles. Tous les matins, ma mère écoute la radio, mais je l'entends pour la première fois. La chanson me plaît. La mélodie est entêtante. Le nouveau single de Rihanna, Toward the Sun, entonne la voix dans le poste. Cela faisait longtemps que je ne m'étais pas aussi bien senti le matin. Et nous aussi, nous allons écouter Rihanna. Je traduis le début de la chanson. Tourne ton visage vers le soleil, laisse les ombres s'écrouler derrière toi. Lost in the rock and roll, got lost in the promise of a love I never know. Me far from home. I remember when my heart was filled with gold. And you know I've been burned. You see me lose control.
En aparté, l'émission littéraire sur RMJ avec Claude Perronnet.
Vous êtes bien sur les ondes de RMJ de son émission Le Livre du Mois, L'Écrivain du Mois. Je reçois en ce moment Aurélie Tarteau à propos de son roman Méandre. Je vous ai parlé de Claire, la sœur de notre héroïne Émilie, de Paul, un ami d'enfance, toujours amoureux d'Émilie. Il y a aussi Audrey, une amie maintenant bien lointaine à tout point de vue. Émilie, vous ai-je dit, va accepter de suivre des cours de management et là, elle va retrouver un autre ami d'enfance, Vincent, qui, curieusement, suit les cours de management comme elle. Je vous lis un court dialogue entre ces deux qui viennent de se retrouver. Vincent me traîne à l'écart et sans préambule. Écoute, je sais que tu as vécu des choses très dures. Il faut que tu saches que je ne ferai jamais rien pour te blesser. Jamais. Sa voix est douce et il se veut rassurant. Je tiens trop à toi pour ça. Et Émilie répond, Vincent, il vaut mieux que tu m'oublies. Il n'y a rien à envisager avec moi, lui dis-je le plus gentiment possible. Je ne te demande pas de sortir avec moi, ni même de l'envisager. Je comprends. N'oublie pas que je suis là. J'attendrai. C'est pas une question de temps, Vincent. Abandonne tout de suite. Ma voix est presque suppliante. Étant donné les circonstances, ça va être difficile. de ne plus penser à toi. Et désormais, Vincent va prendre une place de plus en plus grande dans la vie d'Émilie et dans le roman. Émilie et Vincent vont se voir quasi tous les jours, travailler en binôme pour les cours de management. Émilie trouve d'ailleurs la présence continue de Vincent pesante. Il semble l'espionner plus ou moins. Je vous rapporte quelques paroles de Vincent. Écoute, je suis inquiet pour toi. Tu dois me faire confiance. Tu es en danger et pour pouvoir te protéger, il faut que tu me fasses confiance. Au long des pages, Vincent va nous apparaître comme un personnage bizarre, mystérieux. D'ailleurs, l'histoire elle-même devient de plus en plus bizarre, de plus en plus mystérieuse. Lorsque nous apprenons qu'Émilie a été enlevée, ligotée et retenue prisonnière, on la menace de mort et c'est Vincent qui va venir la délivrer. Je vous lis une scène qui se déroule quelque temps après. Vincent maintient fermement ma nuque et m'embrasse passionnément. Nos corps sont collés. Mes mains parcourent son dos musclé, tandis que lui me caresse les reins. Il n'y a plus aucune retenue entre nous. Nos mouvements sont seulement dictés par un besoin bestial. Il passe sa main sous mon t-shirt et remonte le long de ma colonne jusqu'à l'agrafe de mon soutien-gorge. Il la fait sauter, son autre main agrippe mon épaule et une vive douleur me fait pousser un cri. Je vous redonne cette dernière phrase. Son autre main agrippe mon épaule et une vive douleur me fait pousser un cri. Qui est Vincent? Qu'a-t-il fait à l'épaule d'Émilie? Vous êtes bien sur les ondes de RMJ de son émission Le Livre du Mois, L'Écrivain du Mois. Je reçois en ce moment Aurélie Tarteau à propos de son roman Méandre. Voilà, nous en sommes à la page 122 du roman Méandre d'Aurélie Tarteau, c'est-à-dire exactement au milieu du roman. J'aurais envie de dire à nos auditeurs maintenant, pour découvrir l'histoire, il vous faudra prendre le roman et le lire. Je vais quand même vous donner quelques informations. Voici ce que déclare Vincent à Émilie à la page 122. Ça va te paraître tout droit sorti d'un mauvais polar, mais je vais t'expliquer. Ton mari n'est pas mort dans un accident, il a été assassiné avec ses collègues à cause d'un projet sur lequel il travaillait. On apprendra que l'équipe de Damien, le mari d'Émilie, était sur le point de découvrir une source d'énergie intarissable. Et c'est une société secrète activiste radicale qui regroupe des manias des énergies fossiles qui est à l'origine de l'explosion de l'atelier où travaillaient Damien et son équipe. Bien que l'on ne sache toujours pas qui est exactement Vincent, voici une sacrée révélation. La première partie du roman commençait en juin 2010, cette seconde partie débute en janvier 2016. Et ce sera, vous vous en doutez, la vengeance d'Émilie. En effet, après les révélations de Vincent, Émilie n'a plus qu'une idée, venger Damien, son mari. Elle quitte sa petite ville, elle quitte la France, on la retrouvera à Toronto, puis à Las Vegas, à Los Angeles, de toute façon de l'autre côté de l'Atlantique. Et là, si vous aimez les meurtres, les assassinats, les bagarres, les courses-poursuites, vous serez servi. Aurélie Tarteau possède un réel talent d'écrivain cinématographe pour nous décrire et nous raconter ses péripéties folles de meurtres, de sons, de bruits, de fureurs et d'assassinats. Sachez encore que là-bas en Amérique, nous retrouverons Paul Éclair, venu à la recherche d'Émilie. Nous découvrirons également qu'Émilie sera sauvée de ces dangereuses et horribles péripéties, puis exfiltrée vers la France par Vincent. Mais que fait Vincent là-bas aux Amériques? Qui est-il? Enfin, vous le découvrirez.
En aparté, l'émission littéraire sur RMJ avec Claude Perronnet.
Vous êtes bien sur les ondes de RMJ et de son émission Le Livre du Mois, L'Écrivain du Mois. Je reçois en ce moment Aurélie Tarteau à propos de son roman Méandre. Aurélie Tarteau, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation, d'avoir accepté de vous prêter, de vous livrer au jeu de l'entretien. Aurélie Tarteau, je viens de présenter un résumé lecture de votre roman Méandre, mais c'est mon résumé à moi. Alors voulez-vous peut-être modifier, enrichir, amender ce résumé lecture?
Non, mais je trouve déjà c'est très étrange du coup comme exercice d'entendre une voix posée sur le texte écrit. Après, non, je trouve qu'il est plutôt bien résumé.
Alors dites-nous, Aurélie Tarteau, votre roman Méandre, pour une part, c'est un roman psychologique, enfin psychologique, j'ai pas trouvé d'autre mot, hein. Et pour une autre part, c'est un roman noir, je dirais presque un roman noir à l'américaine. Alors, vous le qualifiez comment, votre roman, si vous aviez à le classer comme ça, dans plusieurs catégories d'ailleurs?
Je trouve que c'est assez bien dit, effectivement, parce qu'il y a une première partie plus centrée sur le personnage et sa façon de ressentir les choses, et puis une partie plus action, enquête, mystère, donc d'aventure et de drame.
Vous nous expliquez le titre, c'est Méandre. Méandre, j'ai dit au pluriel tout à l'heure. Alors je prolonge ma question. Est-ce que c'est vous qui avez choisi ce titre ou bien est-ce que c'est l'éditeur? Et est-ce que vous aviez d'autres propositions de titre ou d'autres souhaits de titre?
Alors c'est moi qui ai choisi le titre et j'ai mis très très longtemps. C'est venu bien après qu'il soit terminé. Je trouvais pas, j'arrivais pas à poser quelque chose dessus parce que du coup c'est vrai qu'il y a deux parties assez différentes et puis je sais pas, je au cours d'une conversation j'ai entendu ce mot et puis je l'ai tourné plusieurs fois dans ma tête et je me suis dit que ça collait à l'état d'esprit du personnage et à l'action donc je vois.
Pourquoi ça colle Méandre, quel sens vous lui donnez?
Eh ben, le méandre, c'est les chemins par lesquels on va passer et se perdre, que ce soit intérieur ou dans la vie, dans le cours des événements. Et donc, je trouvais que ça allait
et
très bien.
Vous n'aviez pas d'autres idées de titre?
Alors, peut-être que j'en ai eu à certains moments, mais comme je ne les ai pas gardés, je ne les ai pas retenus spécialement. Elles ne m'ont pas autant marqué que celles-ci.
Tant qu'on est sur cette idée-là, c'est également vous qui avez choisi la photographie de couverture?
Oui, alors là, j'ai eu quatre propositions de la part de l'éditeur. Donc, ça a été aussi pas facile à choisir, mais c'est celle qui me parlait le plus par rapport à l'action du livre.
C'est une proposition centrée sur l'héroïne et une proposition très noire,
oui.
Puisque c'est une photo en noir et blanc,
oui.
Aussi.
Oui, oui, du coup j'ai retenu la plus noire.
Alors dites-nous, Émilie Tarteau, aviez-vous un but, aviez-vous un objectif en écrivant et surtout en publiant Méandre, et si oui, quels étaient ses objectifs?
Non, en l'écrivant, c'était surtout quelque chose qui a pris forme au fur et à mesure, donc se dire, voilà, quelque chose qui a un début, un milieu, une fin, de réussir à en faire vraiment une histoire entière. Et puis après, non, le publier, là, c'est plus... Enfin, il n'y avait pas de but particulier, c'était pourquoi pas se lancer dans l'aventure.
Vous l'avez écrit, bon ça je comprends, et ensuite vous deviez être satisfaite, si j'ose dire, de votre travail pour vouloir finalement le rendre public.
Oui, je l'ai fait lire du coup à mon entourage qui m'a dit oui, ça c'est plutôt pas mal, vas-y, lance-toi. Je l'ai aussi fait participer à un concours de premier roman où des comités de lecture il n'a pas forcément passé toutes les étapes, mais il en a passé une bonne partie.
Vous aviez eu le bon retour.
Voilà, je me suis dit, bon, ça peut plaire quand même à un certain public, donc pourquoi pas.
Donc je me lance dans l'aventure, d'accord. Vous décrivez dans la première partie ce que j'ai appelé une déprime, je dirais même une longue déprime, alors peut-être je me trompe dans les dates. Et d'au moins 2 ans. Quoi.
Ah oui, la déprime, pour le coup, oui, elle dure effectivement deux ans.
Deux années. Et vous le faites avec beaucoup de précision, beaucoup de détails, en particulier dans la nature des relations entre la déprimée et son entourage, et surtout ses parents. Je trouve que c'est très très bien fait. Alors comment fait-on pour décrire ainsi et raconter une déprime ? Faut-il l'avoir vécue ?
Pas du tout, parce que pour le coup, c'est pas du tout mon cas. Mais par contre, c'est plus le fait de se dire, de se projeter dans cet état d'esprit-là et d'envisager comment les choses pourraient être vécues. Alors, d'essayer d'être au plus juste aussi. Donc, c'était pas forcément évident. Mais si vous trouvez que c'est bien, je suis contente. Parce
moi,
que j'étais pas.
En lisant, je me suis dit, elle décrit ce qu'elle a vécu.
Pas du tout.
Possible. C'est d'une telle. Je trouve que c'est d'une grande précision, d'une grande justesse, non seulement chez la déprimée. Ce qui est peut-être plus facile à ressentir, mais surtout chez la famille, chez ceux qui sont autour de vous. On sent combien c'est compliqué, difficile et lourd pour eux. Quoi. Et je me suis dit, non, elle a vécu ça, c'est pas possible.
Non. J'ai eu une vie très heureuse. Zéro déprime.
Donc
non,
vous avez vraiment. Ouais. Ou alors vous êtes inspiré de quelque chose, vous avez lu des récits de dépressifs
Non, pas spécialement, parce que c'est pas le genre de lecture qui m'attire. Donc après, j'en ai certainement lu, parce que je lis quand même pas mal.
Et là, vous pensez que ça va attirer les lecteurs, alors si ça vous attire pas, vous.
Non, mais après, c'est plus tout un cheminement. Il n'y a pas que la déprime.
Non, il n'y a pas que la déprime, mais c'est quand même la moitié du livre.
C'est il fallait poser les choses.
Alors, finalement, ce que vous exprimez dans cette histoire de déprime, est-ce que c'est pas le récit ou l'expression d'une grande histoire d'amour ? Est-ce que c'est pas ce qui transparaît finalement au-delà de la description un peu clinique, si j'ose
oui.
dire, de l'affaire ?
Bah si, pour moi, la dépression est aussi profonde qu'était l'amour. Donc forcément, d'une extrémité à une autre, on va dire, les sentiments les plus positifs au plus noir ou profond ou triste à l'équivalent.
On écoute une histoire d'amour, une histoire de séparation et d'absence, une histoire de vie après l'enfance du chanteur québécois Georges Dor.
Entre l'enfance et la vieillesse, il y a l'espace d'une vie, le temps de quelques amitiés et d'un grand amour de jeunesse. Il y a aussi le temps des roses et le temps des lilas en fleurs, le temps de t'effleurer à peine. Oh mon amour, oh mon bonheur. D'abord on croit que tout est vrai et que tout va durer sans cesse, que le bonheur nous court après, qu'il s'accroche à notre jeunesse. On croit aussi que le temps presse, que le jour va bientôt finir, qu'il faut cueillir avant midi toutes les fleurs du paradis.
En aparté, l'émission littéraire sur RMJ avec Claude Perronnet.
Vous êtes bien sur les ondes de RMJ de son émission Le Livre du Mois, L'Écrivain du Mois. Je reçois en ce moment Aurélie Tartot à propos de son roman Méandre. Alors dites-nous Aurélie Tartot, certains ou certaines vont se reconnaître dans votre récit de cette lourde déprime. Je reste un petit peu sur cette partie-là dont votre héroïne va finalement sortir. Alors, vous qui avez décrit ça de près, qui avez donc réfléchi, étudié, comment est-ce qu'on fait pour sortir d'une déprime aussi lourde que celle-ci de 2 ans?
Alors, j'aurais pas de conseils à dire comment on fait, parce que c'est pas forcément un exemple à suivre ce que j'ai écrit. non, mais je pense que l'entourage, pour le coup, est ce qu'il y a de plus important.
Sans les décisions prises par la mère, jamais elle n'en serait sortie. Oui, sans sa sœur, etc., etc. L'entourage qui était
exactement.
Allez, on va passer à la deuxième partie de votre roman. C'est une histoire de vengeance. Alors, par vengeance, votre héroïne, quasi de sang-froid, va commettre plusieurs crimes, finalement, plusieurs assassinats. C'est assez violent. Hein. Alors, dites-nous, Aurélie Tarteau, est-ce que la vengeance peut justifier le crime ?
Non. Je pense pas.
C'est pour Alors, pourquoi vous la faites se venger d'une manière aussi brutale comme ça ?
C'est toujours pour exprimer le... Enfin, on pourrait croire qu'à cet instant-là, elle s'en est sortie, mais enfin, pour moi, non, elle est encore dans les vicissitudes de cette dépression et de plus appartenir et de plus pouvoir raisonner de façon rationnelle comme quand on est en bonne santé. Donc ça continue à illustrer en fait tous les méandres de
Vous pensez que
de son état d'esprit.
Cette période de vengeance brutale, c'est une suite de la dépression. C'est une autre forme, mais c'est la dépression.
C'est encore. Ouais. Pour moi, c'est une autre étape, mais c'est.
Elle n'est plus dans le monde du raisonnable.
Non.
D'accord. Je l'avais. Alors. C'est très bien que vous donniez l'explication parce que je ne l'avais pas perçu, mais je le comprends très bien. Je comprends très bien maintenant ça. Alors, c'est une organisation climato-sceptique, l'ORF Grande, je sais toujours mal prononcer l'anglais, Foundation sans doute. Je crois qu'il y a surtout une organisation qui défend les intérêts des producteurs de pétrole qui est à l'origine de la mort du mari d'Émilie. Alors, quatre questions qui s'emboîtent, je vous les donne et puis on les reprendra. Cette organisation ou des organisations identiques existent-elles, selon vous ? Avez-vous inventé cette histoire ? Vous êtes-vous appuyé sur des faits réels ? Et est-ce qu'une entreprise, je ne sais pas, j'y pensais moi, une entreprise comme Monsanto pourrait, selon vous, agir de même pour défendre ses intérêts ? Alors, des organisations comme celle-ci, identiques, existent-elles ou celle-ci existe-t-elle ?
Non, enfin en tout cas c'est...
J'ai cherché sur Internet, j'ai vu qu'elle n'existait pas,
mais bon. Non, c'est inventé pour le roman, totalement inventé, totalement fictif. Après, est-ce que ça pourrait exister ? Je ne sais pas, je ne pense pas qu'on en soit là. Après, voilà... Tout le monde défend son intérêt plus ou moins et certains y arrivent mieux que d'autres.
Vous pensez qu'il
pour
n'y a
en
pas...
arriver là, je pense pas.
Vous pensez qu'il n'y a pas des lobbies qui pourraient aller jusqu'à pratiquer l'assassinat pour défendre leurs intérêts ?
J'ose espérer que non.
C'est l'espoir. Mais vous ne vous êtes pas inspiré de choses existantes ?
Non,
vous
voilà, non. Après, c'est plus de se nourrir de l'actualité de nos sociétés et d'aller chercher jusqu'au bout de... Enfin de oui, de tirer un petit peu un fil et de voir au bout du bout ce que ça pourrait donner. Mais
non, vous avez une imagination débordante. Alors, au fait, Aurélie Tarteau, Damien, avant l'attentat qui a causé sa mort, avait remis à son épouse Émilie une lettre dont nous apprendrons plus tard qu'il fait part, même si ce n'est pas toujours très explicite, d'une partie de ses secrets, du moins de ses inquiétudes. Alors, Émilie va hésiter pendant plusieurs années, finalement, avant d'ouvrir cette lettre. C'est seulement la page 139, pardon de mesurer en page. Bon, et après les révélations de Vincent, si j'ai bien compris qu'elle le fait. Alors pourquoi cette longue attente ? Est-ce que c'est seulement un subterfuge littéraire ?
Non, c'est aussi parce que c'est toujours dans l'espoir d'avoir quelque chose à découvrir de l'autre et d'avoir... Parce qu'elle vit toujours dans ses souvenirs, dans ce qu'il a apporté pendant tout le bonheur qu'elle a vécu, et de se dire que peut-être elle en a encore une part malgré tout, elle s'y accroche. Et puis ça sert aussi le récit, forcément.
Vous auriez eu cette enveloppe, vous là, comme ça, qu'elle regarde le soir, etc., etc. Vous auriez pu attendre 2 ans
non.
avant de l'ouvrir ?
Non.
Ah bon,
non, moi je.
Non. Moi non plus. Hein. je me disais en lisant, mais ouvre-la maintenant. Hein. Bon. Votre deuxième partie, je dirais, hyper réaliste, et votre écriture est souvent, je l'ai dit tout à l'heure, cinématographique. Alors, je pense que vous n'avez pas vécu ces meurtres, ces assassinats, ces courses-poursuites, enfin, je ne crois pas.
Non.
Qu'est-ce qui vous a inspiré?
Bah, là encore, je lis beaucoup et je regarde aussi beaucoup de films, donc peut-être que c'est un peu toute cette culture qui se retrouve dans le récit. Après, j'ai pas de point précis d'inspiration, en tout cas.
Des choses que vous aviez vues, emmagasinées, lues.
Oui, voilà, c'est plus qui sont ressorties tout un vécu.
Il n'y a pas de film particulier.
Non, pas de point particulier.
Et vous décrivez fort bien ces villes anglo-saxonnes, là, ces populations grouillantes. Alors là encore, avez-vous vous-même vécu ces journées dans ces villes?
Non, aucune des villes évoquées
des
dans
villes
le...
qui ressemblent.
Non, après non, j'ai non pas trop, pas
vous avez,
vraiment.
Vous avez vécu en Amérique?
Non, pas du tout. Pas du tout.
Et vous êtes inspiré encore de films, de choses?
Oui, oui, ou de se renseigner un petit peu plus précisément sur les lieux pour pouvoir en parler après. Mais non, je les ai jamais vus.
Vous n'allez pas comme ça sur l'internet voir comment les villes sont faites, rechercher des photos, photos, des choses comme ça, des films, et des petits bouts de films et tout ça. Ok. Alors maintenant que votre ouvrage est publié, ça fait combien? Un mois? Deux mois?
Trois mois. Début d'année, oui.
Relativement peu de temps. Et que votre histoire est publique, que vous avez des lecteurs et sans doute aussi des retours. J'en ai lu sur votre page Facebook, par exemple. Est-ce que vous changeriez quelque chose dans votre roman si vous aviez à le réécrire?
À ce stade-là, non. Non, parce que j'ai travaillé pendant très très longtemps, je l'ai remanié beaucoup, et pour l'instant en tout cas les gens qui l'ont lu ont plutôt apprécié, donc non, je ne changerai rien.
Dans tes classes de lycée, il y a tes rêves et tes secrets, tous ces mots que tu ne dis jamais, des mots d'amour et de tendresse, des mots de femme que tu caches et qu'on condamne, que tu caches, petite Anne. Dans tes classes de lycée, il y a du sang et il y a des pleurs, des premières blessures de ton cœur, les premières sur les premières déchirées qui font des bleus à ton âme, qui font des bleus, petite âme.
L'émission littéraire sur RMJ avec Claude Perronnet.
Vous êtes bien sur les ondes de RMJ, de son émission Le Livre du Mois, L'Écrivain du Mois. Je reçois en ce moment Aurélie Tartot à propos de son roman Méandre. On vient d'écouter Diabolomante pour montrer que pour vous l'enfance et l'adolescence sont passées. Et pourtant, Aurélie Tartot, vous êtes une très jeune romancière Et Méandre est d'ailleurs votre premier roman publié. Alors pour nos auditeurs, vous pouvez vous présenter, nous dire qui vous êtes, d'où vous venez, quel est votre... Je crois que j'ai dit que vous étiez Bellachon, hein, de toute façon. Quel est votre parcours, qu'est-ce que vous faites comme métier, etc., etc. Je vous laisse vous présenter.
Je suis originaire de Bellac, où j'ai fait une bonne partie de mes études jusqu'au baccalauréat. Puis je suis partie un petit peu pour faire une classe préparatoire, une école de commerce, et puis commencer dans la vie active. Je travaille dans un établissement bancaire depuis la fin de mes études jusqu'à aujourd'hui. Je suis mariée, je vis maintenant près de Limoges où je travaille. Et puis voilà, j'aime bien voyager, même si je n'ai pas encore visité les villes que j'évoque, mais j'y manquerai pas.
Alors j'ai dit que Méandre était votre premier roman publié, mais je suis certain que vous écrivez depuis longtemps, que vous avez écrit peut-être des nouvelles, des poèmes. Vous pouvez nous expliquer tout ça ?
Alors oui, plus quand j'étais jeune, du coup.
Oh,
non,
mais
quand j'étais petite. Où j'aimais bien écrire des poèmes. J'avais essayé d'écrire une histoire aussi quand j'étais au collège. J'avais jamais vraiment été au bout d'une histoire. C'était plus des poèmes où je dessinais aussi. J'aimais bien dessiner. Mais par contre, en grandissant, en continuant mes études et en entrant dans la vie active, c'est des choses que j'avais totalement laissées de côté. Et je ne sais pas pourquoi, il y a 4-5 ans, je m'y suis remise. J'ai eu une idée que j'ai eu envie de développer jusqu'au bout. Et donc, ce premier roman publié, c'est le premier roman que j'ai vraiment écrit en entier.
Il n'y a pas d'autre que vous avez mis dans...
Non.
Vous y aviez écrit avant et que vous auriez mis dans des tiroirs.
Non.
Non, c'est le premier.
Voilà.
Vous pouvez nous expliquer comment vous travaillez, comment vous vous documentez, comment vous écrivez ?
Beaucoup d'imagination. Je pars de... Enfin, en tout cas, là, pour celui-ci, puisque finalement, je n'ai pas beaucoup de recul non plus que celui-ci. Je suis partie du personnage auquel j'ai pensé, à ce que j'avais envie de lui faire vivre. Donc, c'était... Je me mettais à mon bureau et puis je pensais à des scènes que j'étoffais au fil des fois. Et puis après est venu se greffer du coup une vraie histoire avec un début, un milieu, une fin. Donc c'est un peu comme une motte de poussière qui en roulant est venue grossir. Et puis après, on va dire pour donner un peu plus de consistance, où c'est vraiment dans un dernier temps où toute la partie où je suis allée chercher des informations extérieures pour rendre
après.
Plus réaliste.
Documenter après.
Ouais, voilà.
Et dans la journée, comme ça, vous avez des idées, vous notez ça sur un carnet, sur une
parfois.
Ça,
parfois.
D'accord. Au bureau, au travail.
Oui, des fois, voilà.
Aurélie Tartaud, vous venez de publier un roman. Vous êtes donc un écrivain, on va dire écrivaine pour être moderne. Alors, dites-nous, pour vous, qu'est-ce que c'est qu'un écrivain et puis à quoi ça sert ?
Alors, qu'est-ce que c'est qu'un écrivain ? Bizarre comme question, parce que c'est avant tout quelqu'un qui a vécu, qui a sa vie, qui a envie de partager peut-être des choses, qu'elles soient vraies ou pas.
Et à quoi ça sert ?
Et à quoi ça sert ? Bah, c'est après, en fait, j'ai tendance à penser que une fois que l'histoire est écrite et publiée, chacun va s'approprier le livre et s'en faire sa propre projection. Donc c'est, en tout cas moi, les livres, pour moi, je les prends comme un peu un moment d'évasion hors du temps, donc j'espère que...
Donc l'écrivain, il va procurer de l'évasion hors du temps au lecteur.
Voilà, un petit moment hors du quotidien, hors de la réalité, dans
quotidien.
L'imaginaire.
Et faire sortir de la réalité, c'est dans vos objectifs
Alors, objectif, je sais pas, parce qu'il y avait pas forcément, enfin, en tout cas, je me suis pas mise à écrire avec un objectif, mais oui, je trouve que si c'est le cas, de quand on est plongé dans la lecture, de pouvoir ne plus penser à l'éventuel travail à faire le lendemain ou des problèmes ou autre, mais d'être vraiment dans un autre univers, ben oui.
La lecture, ça permet de faire des breaks.
Ouais, de s'évader. C'est une autre forme de voyage.
Alors, vous êtes écrivain, vous êtes auteur, vous voulez qu'on vous lise, bon, ben c'est normal, hein. Mais vous-même, que lisez-vous? Quels sont vos goûts littéraires? Vous pouvez nous donner trois auteurs ou trois titres comme ça?
Alors après moi les premières lectures qui m'ont beaucoup marquée, c'est quand je veux dire j'étais plus jeune aussi avec J.K. Rowling et Harry Potter, la saga où vraiment c'est là où je me suis plongée dans un autre univers pour le coup et où je me suis mise à apprécier la lecture. Donc j'aime bien le fantastique comme genre, mais après j'ai pas de genre de prédilection où je vais lire vraiment soit la couverture m'a plu, le résumé m'a plu ou quelqu'un m'en a parlé, ça m'a interpellée. Je vais pouvoir lire des romans policiers ou des romans d'aventure, des romans d'amour.
Il n'y a pas de titre comme ça qui vous vient, le roman que vous avez préféré ou l'auteur dont vous délectez, il n'y en a pas?
Non, pas.
C'est un peu de tout, quoi.
Ouais,
tout ce qui arrive.
J'aime bien lire plein de choses.
Fantastique et le roman policier, quand même, beaucoup. Et le roman d'aventure.
Oui, ou des histoires. Après, même des histoires plus banales du quotidien, de couple, de famille.
D'accord.
Voilà.
Aurélie Tarteau, Méandre, c'est votre premier roman, mais bien sûr, ce ne sera pas le dernier. Vous pouvez nous dévoiler un peu de ce que sera votre prochain ouvrage, parce que je suis sûr que vous y pensez déjà.
Mm-hmm. Oui, il y a effectivement déjà des écrits. Alors, c'est pas encore, c'est loin d'être finalisé, mais ce serait plutôt, pour le coup, quelque chose de beaucoup plus fantastique.
Fantastique. Alors,
ouais, voilà.
On en saura pas plus.
Voilà, ce sera moins ancré dans le réel.
Alors, par tradition dans cette émission, c'est l'invité qui choisit la dernière illustration musicale. Vous avez choisi Ashes, une chanson de Céline Dion. Alors pourquoi ce choix ?
C'est une chanson qui évoque le questionnement face à la tragédie. Est-ce qu'on arrivera à la surmonter ? Donc ça collait avec l'histoire du livre. Et puis c'est une chanson que j'aime bien.
Aimez Céline Dion ?
Oui, j'aime bien Céline Dion.
Aurélie Tarteau, merci.
Merci à vous.
Merci d'avoir accepté notre invitation, d'avoir répondu à nos questions avec gentillesse et sincérité. À nos auditeurs, je voudrais conseiller de se plonger très vite dans la lecture de Méandre d'Aurélie Tarteau. En un seul ouvrage, ils découvriront à la fois un roman psychologique, un roman de mœurs même, et aussi un roman noir, un peu à la manière des polars américains. Le récit est passionnant. On a d'ailleurs envie de lire le livre d'une seule traite. Il faut dire aussi que la syntaxe est sans faille et que la lecture du roman est facile. Lire Méandre d'Aurélie Tarteau, c'est aussi découvrir une nouvelle romancière. Je suis certain qu'à la fin de la lecture, vous direz comme nous à bientôt pour le prochain roman. Christophe Gourcerolles qui réalise cette émission et moi, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour notre émission en aparté Méli Mélo. Avec les patoiseries de la basse marche, de brèves rencontres avec les romancières Maryse Bouzet et Evelyne Bonhomme-Tongourian, et 20 minutes en poésie et en chanson que je consacrerai à Jules Supervielle. Et le mois prochain, pour un nouveau numéro du livre du mois, l'écrivain du mois, je recevrai alors Jean-Pierre Chaminade. À très bientôt donc et très bonne semaine à vous tous. Nous terminons avec Ashes de Céline Dion. Ashes veut dire cendre. Pour ceux qui, comme moi, ne maîtrisent pas vraiment la langue anglaise, voici la traduction des premiers vers. Que reste-t-il à dire ? Ces prières ne fonctionnent plus. chaque mot descendu en flamme, que reste-t-il à faire ? Avec ses prières brisées sur le sol, je perds ma voix en t'appelant. Céline Dion.
Watching all these dreams go up in smoke. Let beauty come out of ashes. Let beauty come out of ashes. And when I pray to God, all I ask is, can beauty come out of ashes? Can you use these tears to put out the fires in my soul? 'Cause I need you here. Whoa, whoa. 'Cause I've been shaking, I've been bending backwards till I'm broke. Watching all these dreams go up in smoke. Let beauty come.
En aparté, l'émission littéraire sur RMJ avec Claude Perronnet.